Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour à tous, bienvenue dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs pour un nouveau voyage sur la planète économie. Eh bien justement, sauver la planète, mais à quel prix? La question se pose toujours plus pressante, voire oppressante, de semaine en semaine, sur fond d'inflation persistante, de hausse continue des taux d'intérêt. Et ce n'est pas fini, la crise énergétique prend de l'ampleur, touchant d'autant plus des pays déjà fragilisés. De ce point de vue, on le voit avec les délestages en Afrique du Sud. Le gouvernement britannique gèle les factures des ménages et paiera la moitié des coûts de l'énergie des entreprises cet hiver. Nous verrons les conséquences pour les finances publiques. L'Allemagne en première ligne nationalise son plus grand importateur de gaz, Uniper, l'un de ces géants de l'énergie. Dans le feu des projecteurs, ont-ils bien mérité leurs profits records engrangés depuis le début de la guerre en Ukraine? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prévoit un hiver de grogne mondiale, a donné son avis sans détour lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Il y a une autre bataille que nous devons mener, une guerre suicidaire contre la nature. La crise climatique est un enjeu capital de notre époque. L'industrie des énergies fossiles engrange des centaines de milliards de dollars en subventions et en bénéfices records quand les budgets des ménages s'effondrent et notre planète brûle. Les pollueurs doivent payer.
Les pollueurs doivent payer. L'idée d'une taxation des superprofits de l'énergie fait son chemin, mais suscite aussi des résistances. Une taxe sectorielle pose un problème d'inégalité de traitement entre les entreprises. Équité fiscale, équité sociale, où placer le curseur? On en parle dans la seconde partie de l'émission avec la professeure d'économie Céline Azémar. La protection de l'environnement et les contraintes économiques. Un débat récurrent dans le secteur du cacao, dont vivent 40 à 50 millions de personnes dans le monde, à commencer par la Côte d'Ivoire, premier producteur, le Ghana ou le Cameroun. Comment assurer un prix décent quand on demande au secteur de ne plus détruire les forêts? À quelques semaines de la COP27 et alors que la grande saison de récolte du cacao va commencer, les parlementaires européens musclent le Green Deal, le contrat vert, et demandent l'interdiction de produits importés issus de la déforestation. Pascal Canfin, président de la Commission de l'environnement du Parlement européen.
C'est une première mondiale et c'est extrêmement radical. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous achetons du café, du cacao, de l'huile de palme, du soja, eh bien, nous n'avons aucune garantie que ces produits ne sont pas issus d'hectares qui ont été déforestés. Dorénavant, avec cette loi, les choses seront simples. Si une entreprise ne peut pas prouver que ce qu'elle importe en Europe n'est pas issu de la déforestation, alors, tout simplement, elle ne rentre pas dans le marché européen. C'est une avancée historique, inédite du Green Deal, et nous savons déjà que cela aura des conséquences ailleurs, puisque les États-Unis commencent à réfléchir à une loi équivalente.
Voilà donc un nouveau tour de vis contre la déforestation qui concerne plusieurs produits importés. Nous, on va s'intéresser en particulier à ce cacao. Durable, oui, mais quelles conséquences pour tous ceux qui en vivent? C'est le sujet cette semaine d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, qui va donner la parole aux différents acteurs de cette filière divisée. Les débats y sont intenses, parfois conflictuels. Marie-Pierre Olfan, spécialiste des matières premières sur RFI, s'est rendue il y a quelques jours au Forum européen du cacao à Rome. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour,
elle est à côté de moi en studio. Elle a pu recueillir ce sentiment général. Et nous sommes en ligne avec un expert mondialement reconnu, habitué de nos micro, François Ruff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes un grand voyageur. On peut dire que vous vivez entre la France et la Côte d'Ivoire?
Ou carrément en Côte d'Ivoire. Beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'en France. Un petit peu au Ghana, un petit peu en Indonésie, un peu dans tous les pays qui produisent du cacao quand je ne suis pas en Côte d'Ivoire.
Vous allez donc commenter les propos des uns et des autres, les producteurs, les industriels, les politiques. Il y a beaucoup à dire, en témoignent vos premiers commentaires sur notre page Facebook RFI Éco. Je lis l'un de nos auditeurs, JM Mangangou de Kinshasa. Nous produisons et les prix sont fixés par les acheteurs. Il faut dorénavant créer de la valeur en Afrique. La vente des matières premières ne nous profite pas, hélas. Voilà qui pose le problème. RFI Éco sur Facebook et sur Twitter pour prolonger la discussion. Bonne émission à toutes et à tous.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Bruno Faure.
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, un point rapide, François Ruff, sur l'état du marché mondial du cacao. Crise Covid, guerre en Ukraine, les engrais, l'inflation généralisée, la diminution du pouvoir d'achat des consommateurs, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour le secteur du cacao.
Oui, pas des bonnes nouvelles, et notamment pour les producteurs qui sont au cœur et à la base de la filière et de l'approvisionnement des consommateurs en chocolat. Ce sont eux qui vont souffrir le plus. Et donc oui, mais tous ces facteurs sont difficiles à hiérarchiser, à isoler. Par exemple, le Covid, dont on a beaucoup parlé, dont les multinationales ont beaucoup parlé pour justifier la baisse des cours, a joué finalement un rôle assez limité. La demande s'était légèrement fléchie, mais elle a repris. L'effet Covid sur les prix du cacao et du chocolat sont assez limités. En revanche, l'action politique de la Côte d'Ivoire et du Ghana, dans les conditions de difficulté de la commercialisation, des grandes composantes de cette filière qui sont assez obscures et qui connaissent beaucoup de dysfonctionnements, ont fait que l'action politique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ont été plutôt contre-effectives et les producteurs en ont assez souffert. Alors bien sûr, l'inflation, qui n'est pas liée fondamentalement à la guerre en Ukraine, qui est liée à beaucoup d'autres choses, sauf peut-être sur le prix des engrais, accroît les difficultés des producteurs.
Est-ce que la campagne qui commence, là, début octobre, théoriquement, est-ce que cette campagne est prometteuse pour les planteurs? Est-ce que les conditions météo sont bonnes dans le contexte que l'on connaît du changement climatique?
Bon, tout ce que je connais biologiquement, techniquement, en Côte d'Ivoire et peut-être au Ghana, la récolte s'annonce moyenne, mais ni bonne ni particulièrement mauvaise biologiquement. Mais après, on ne sait pas encore ce que les planteurs vont pouvoir faire dans l'entretien et dans la récolte. Ce qu'on observe dans certaines régions de Côte d'Ivoire, c'est que la récolte est très précoce. Donc le marché, les ports d'Abidjan et de San Pedro et peut-être du Ghana vont être vite alimentés en fèves de cacao. Faudra pas que ça fasse illusion, parce qu'il n'est pas sûr que cette récolte se prolonge dans le temps.
On va justement les entendre, ces planteurs. François Ruff, venons-en à cette problématique de la durabilité du cacao. Avec le durcissement des règles imposées par les Européens, on l'a entendu il y a quelques minutes, moins de déboisement, ce sont plus de contraintes pour les producteurs. Écoutons deux témoignages de cacaoculteurs venus de Côte d'Ivoire, tous deux engagés dans cette démarche.
On cultive depuis longtemps un cacao durable. On essaie de respecter les normes. De la durabilité. Nous sommes certifiés RA, nous sommes certifiés Fairtrade et chaque fois, il y a des contrôles. Chaque fois, il y a des auditeurs qui viennent, qui font des visites inopinées, qui vont dans les plantations. Depuis longtemps, on sait que c'est pour l'avenir du monde, c'est pour que le monde soit vraiment équilibré. Donc, on ne peut que se conformer à ces normes-là.
Comme la directrice vient de le dire, il y a trop d'efforts que nous faisons avant d'être certifiés. Et puis après la certification, il y a énormément de travail. Donc la rémunération, c'est ça qui est notre préoccupation.
Je pense que le prix qu'on paye pour le cacao durable n'est pas assez. Donc si le prix était amélioré, ça serait avantageux pour nous les producteurs.
Nous venons d'entendre Anicette Asseux, directrice de la coopérative Sokane au nord d'Abidjan. 3000 membres, 12 000 tonnes de cacao par an. Cacaocultrice avec son mari Mohamed Ouedraogo, président du conseil d'administration de cette même coopérative. François Ruff, cette lutte contre la déforestation importée qui prend de l'ampleur donc du côté européen, les normes imposées par les acheteurs, est-ce que tout ça a des conséquences vraiment directes sur le travail au quotidien des producteurs?
Alors c'est une question compliquée. Il y a déjà une confusion entre ce qu'on appelle cacao durable, dont on ne sait pas trop bien comment le définir, et le cacao zéro déforestation, qui serait produit sans détruire les forêts. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a plusieurs aspects dans la durabilité qui n'est pas limité à la question de la déforestation. Pour en rester à la question de la déforestation, pour appeler un chat un chat, il faut déjà dire que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la forêt a quasiment disparu. Il y a des chiffres qui circulent sur 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance. Il en reste entre 1 ou 2 au mieux. Alors on peut essayer de sauver. Et j'essaye, en tant que chercheur, d'aider ceux qui veulent bien sauver la forêt à la sauver. Mais ça se passe sur le terrain. Ça se passe pas sur des décrets à Bruxelles. Et quand j'entends Pascal Couffin, je me dis, mais est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Est-ce qu'il se rend compte qu'il rêve à au moins 60% ou 70%? On y reviendra peut-être après, mais la traçabilité du cacao est encore largement un leurre, un mythe et à la limite un mensonge.
On va y revenir justement, effectivement, avec Marie-Pierre Olfan qui est à mes côtés et qui a une question pour vous à propos des prix du cacao.
François Ruff, que sont devenues les taxes qui avaient été décidées en 2019 pour aider les producteurs ivoiriens et ghanéens? On parle notamment d'une taxe de $400 par tonne de produits qu'on appelle le lead en anglais ou le DRD, le différentiel de revenus décent. Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce qu'elle a fait du bien aux producteurs?
Ben oui, malheureusement, c'est ce que j'essayais de dire de façon un peu elliptique au début. Globalement, la réponse est non. Malheureusement, ces $400, normalement, ils devaient permettre d'aboutir à un prix au producteur de 1000 francs, c'est-à-dire une augmentation de 20 ou 30% du prix par rapport à l'année précédente. Et en Côte d'Ivoire, ça a duré à peu près 3 mois, au mieux entre 2, 3 ou 4 mois selon les régions. Et très rapidement, le prix s'est effondré. Sur le terrain, le gouvernement a dû rétro-pédaler et à la petite traite, c'est-à-dire en cours de campagne, il a diminué le prix à 850 francs. Et encore, même ce prix de 850 francs n'a pas été respecté très longtemps. Et dans l'ensemble, sur la campagne 2020-2021, les planteurs se sont appauvris en termes de revenus courants. Et ils se sont encore plus appauvris, bien sûr, avec l'inflation et l'augmentation des prix des intrants. Au Ghana, le prix a été emprunté un peu plus respecté, mais avec l'érosion du CDI et surtout des retards de paiement considérables, les planteurs ont énormément souffert au Ghana également.
François Ruff, toujours à propos des prix, je voudrais vous faire réagir au propos de deux acteurs importants de la filière. On va écouter d'abord Michel Arion, c'est le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, une organisation intergouvernementale, 51 pays membres, dont des exportateurs et des importateurs. Son message: on ne peut pas demander plus aux planteurs.
Tout le monde comprend les principes généraux et les objectifs d'une telle réglementation. Et en définitive, l'acheteur, l'importateur peut décider la façon dont il organise ses importations et la qualité, le standard, la norme qu'il désire. Cela dit, il ne faudrait pas que ces exigences soient un fardeau supplémentaire qui aboutit sur les épaules d'un producteur déjà en mauvais état financier. On a vu ça avec les systèmes de certification qui donnaient des primes, mais à la fin, le coût des investissements nécessaires pour atteindre certains standards ne valait pas la prime additionnelle au niveau du prix. Et donc, il ne faut pas se tromper, le cacaoculteur, le petit fermier, sait compter et il ne va pas adopter certaines pratiques si elles lui coûtent plus que ce qu'elles lui rapportent.
Comment faire accepter ces nouvelles règles, sacré défi, on va y revenir. Avant cela, autre avis et qui complète ce propos, celui d'Alex Assanvo, secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui défend les intérêts de ces deux pays. Il nous dit: il faut changer la donne parce que le monde a changé.
Aujourd'hui, nous avons l'Union européenne qui met en place une régulation. Il y a la déforestation, il y a aussi le droit de vigilance. Tous ces éléments-là demandent du changement. Donc le message, c'est de dire, vous savez, si vous voulez faire du business as usual, donc du business comme d'habitude, comment est-ce qu'on peut délivrer l'objectif commun d'améliorer les conditions des planteurs si les fondamentaux du marché restent les mêmes? C'est-à-dire acheter le cacao toujours moins cher. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons des phénomènes extérieurs qui se passent, des crises qui nous amènent à avoir des coûts assez élevés des intrants, des produits chimiques. Donc tout augmente. Mais paradoxalement, pendant que tout augmente, on a le prix du cacao, le prix du marché qui baisse. Déjà, nous sommes dans un schéma où 5% à 6% de la chaîne de valeur, donc environ 130 milliards de dollars de revenus de cette filière, environ 6% seulement reviennent au pays. Donc pour nous, il est intéressant de regarder comment est-ce que cette chaîne va se repenser. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est temps de réfléchir aux mécanismes qui nous permettraient d'atteindre ces objectifs-là et non pas juste utiliser simplement des régulations qui vont potentiellement créer plus de pauvreté s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement.
François Ruff, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? On ne peut pas faire des réformes, mettre en place de nouvelles règles sans associer ceux qui travaillent sur le terrain?
Oui, mais c'est surtout quand on émet des nouvelles règles, par définition, il faut avoir les moyens de les vérifier et de les respecter, et éventuellement de sanctionner si elles ne sont pas appliquées. 90% des cacaoyères maintenant en Côte d'Ivoire existent dans des zones qui ont déjà été déforestées depuis plus de 10 ans. Donc je ne sais pas quelle est la définition du cacao zéro déforestation, mais ça relève un peu du fantasme. L'enjeu c'est quoi maintenant? Il reste quelques centaines de milliers d'hectares, presque rien, il reste presque rien, 2 ou 3 forêts en Côte d'Ivoire. L'enjeu c'est, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, l'enjeu c'est de les sauver ces forêts. C'est pas une régulation générale qui va les sauver quoi que ce soit, au contraire. Puisque une fève qui est produite au cœur d'une forêt classée comme la Bossématier, j'aime bien donner l'exemple de la Bossématier à l'est de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Ghana, parce que c'est l'exemple même, l'illustration même du fossé béant entre le virtuel, les discours politiques et la réalité du terrain. Pendant que les politiques parlent, pendant que les multinationales parlent, pendant que les gens de Bruxelles parlent et parlent de mesures radicales, de première mondiale, mais je m'excuse d'utiliser des termes un peu forts, mais on rigole quoi, enfin on rigole ou on pleure. Pendant que ces discours se tiennent, les forêts brûlent en Côte d'Ivoire. La forêt de la Bossématier brûle sous mes yeux. Et les fèves qui sont produites dans cette forêt alimentent les coopératives aux alentours et un peu plus loin. Il y a tout un réseau de pisteurs et de camions qui font que si la coopérative prend pas la fève produite dans la forêt classée, ils vont la livrer à 50 km où cette coopérative ne sera pas embêtée. Elle finit au port et elle finit dans les tablettes de chocolat vendues par Nestlé et autres. Et ça, c'est extrêmement difficile à contrôler. C'est quasiment impossible. Il y aura toujours des détournements. On peut pas marquer une fève de cacao avec un marqueur nucléaire. c'est juste impossible. Donc ça sert à rien.
Cette question de la traçabilité, on va en parler. Marie-Pierre Olfan.
Vous dites que c'est difficile à contrôler. Est-ce qu'il y a à minima une volonté des États, on parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux plus gros producteurs, d'effectuer ce contrôle sur le terrain?
Ben c'est le discours, mais avec la réserve que je me dois comme chercheur français de respect de la souveraineté ivoirienne, je dois quand même observer que là où je travaille, c'est pas le cas. Dans la pratique, les dernières forêts continuent à disparaître. Au Ghana, c'est un petit peu mieux protégé. D'ailleurs, l'évolution de la production de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana est très démonstrative. C'est le même climat, les deux pays ont souffert de la même sécheresse, et le Ghana baisse de 25% sa production cette année, parce grosso modo 1 million de tonnes à 750 000 tonnes. Alors on dit c'est la sécheresse, oui, mais en Côte d'Ivoire, c'est le même climat, c'est la même sécheresse et ils sont toujours à 2 millions de tonnes. Mais c'est parce que l'effet de diminution des rendements dans les plantations adultes et vieillissantes du pays est compensé par l'entrée en production de nouvelles plantations créées dans les forêts classées. Donc je considère, moi, que cette règle est sans doute part d'un bon sentiment à l'Union européenne, mais enfin, je vois pas le moindre début de réalisme et d'impact positif pour les planteurs. Ça va effectivement créer des normes supplémentaires, et donc ça va profiter, là, de ce point de vue, l'intervenant précédent a raison, ça va appauvrir un peu plus les planteurs et enrichir les intermédiaires qui vont surveiller les normes.
Vous avez parlé des relations entre les politiques et les multinationales. Je voudrais qu'on donne la parole au gouvernement ivoirien, à Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et des Forêts.
Nous sommes d'accord pour que aujourd'hui l'Union européenne envoie cette réglementation et nous sommes d'accord aussi de nous mettre ensemble avec eux pour trouver les mécanismes pour atteindre l'objectif d'avoir du cacao légal. Mais nous avons besoin de mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux petits planteurs de participer à l'agroforêt. Mais s'ils participent à l'agroforêt, il faut les sensibiliser. Mais pour les sensibiliser, il faut avoir les moyens pour les sensibiliser. Il faut aussi que l'Union européenne travaille auprès des acheteurs pour que le prix du cacao soit réévalué.
Le ministre des Eaux et des Forêts ivoirien qui en appelle aux Européens pour agir sur les acheteurs. François Ruff, est-ce qu'il y a une hypocrisie là-dedans? Est-ce que les dirigeants politiques ivoiriens ou ghanéens devraient être plus insistants eux-mêmes auprès des acheteurs?
Ils sont dans leur rôle, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire la chute du tendanciel du cours mondial du cacao depuis 30 ans, elle s'explique, là ce ne sont pas les... Bon, effectivement, il y a des rapports de force, les multinationales augmentent leurs profits, elles sont aussi dans leur rôle, et donc ce n'est pas en faisant des récriminations et des sollicitations et des demandes d'intervention qu'on va changer les choses. Les 2 millions de tonnes et la place de premier producteur mondial de la Côte d'Ivoire, elle s'est faite au prix d'une très large déforestation. Ça sert à rien de le nier, tout le monde le sait. Des gens pauvres avaient besoin d'améliorer leur niveau de vie, de construire une vie de famille. Ils ont déforesté, ils ont défriché. Il y avait on comprend très bien que ça s'est passé comme ça, mais ça sert à rien de le nier. Et que le gouvernement ivoirien devrait sans doute mieux comprendre, c'est que ce n'est pas un choc exogène, les baisses de prix, c'est lié à la déforestation dans leur pays et dans d'autres pays. Mais comme la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, ils en ont une large responsabilité. Bon, de toute façon, la déforestation est faite, elle est actée. Encore une fois, il reste presque plus rien à sauver. Donc essayons de le sauver, mais le sauver en protégeant les forêts, c'est tout. Il faut mettre de la présence humaine, c'est tout sauf de la régulation au niveau national ou international. C'est de la protection locale qu'il faut faire.
Précisément, il y a une question fondamentale si on veut imposer de nouvelles règles et rendre cette filière plus durable, c'est celle de la traçabilité. On l'a dit, on sait que les entreprises du cacao peuvent avoir recours à des chaînes d'approvisionnement indirectes qui parfois manquent un peu de transparence. Là aussi, Marie-Pierre Olfand, il y a du nouveau. La Côte d'Ivoire qui annonce une traçabilité totale de son cacao à partir de 2023, dès l'année prochaine.
Alors cette traçabilité, elle est peut-être utopique, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'annonce la Côte d'Ivoire. Elle aurait aimé assurer cette traçabilité dès le début de cette campagne cette année, mais du retard a été pris. Il faut comprendre que c'est un processus complexe et à la base, avant de parler de traçabilité, il faut recenser évidemment les planteurs. La Côte d'Ivoire a annoncé il y a plusieurs mois avoir fini ce recensement. Selon le Conseil Café Cacao, ils sont aujourd'hui plus de 990 000 planteurs, ils ont tous une carte de producteur désormais et toutes les plantations ivoiriennes ont été géolocalisées. Alors François Ruff nous dira peut-être s'il a pu constater que c'était le cas sur le terrain. Mais ce recensement, il faut le comprendre, donc est capital. C'est le point de départ pour tracer les fèves de la plantation jusqu'au port. La traçabilité, elle, demande plus. Elle implique de pouvoir marquer les sacs des producteurs, par exemple. Elle implique aussi de suivre les transactions entre producteurs et coopératives. Donc là, on parle de la Côte d'Ivoire, mais il faut expliquer que chaque pays avance un petit peu à son rythme. Au Ghana, ce recensement n'est pas encore terminé, mais il devrait l'être bientôt. Et au Cameroun, qui est un autre pays producteur du continent africain, l'identification a été lancée il y a 2 ans. 65 000 planteurs ont été localisés, soit un tiers environ des producteurs à ce stade, ce qui montre en tout cas que l'identification est déjà un processus long et fastidieux.
François Ruff, vaste programme, vaste sujet.
Oui, bon, le Conseil Café Cacao a eu raison de tenter l'aventure, mais enfin, quand on est sur le terrain, on sait très bien que c'est extraordinairement complexe. De toute façon, des exploitations cacaoyères, ils s'en créent tous les jours. Donc un recensement qui a été fait à l'instant T perd très vite de la valeur.
Même avec des images satellites, même avec un partage des données de localisation, ce sont les idées du moment.
Oui, même. Enfin, il reste beaucoup de progrès à faire. Techniquement, ce serait possible, mais je suis pas sûr que ce recensement soit actualisé et les moyens de s'actualiser régulièrement tous les ans. Bon, d'autre part, on peut quand même se poser des questions. Moi, j'ai entendu dire que à partir du recensement qui a été fait, le chiffre estimé du cacao qui sortait des forêts classées en Côte d'Ivoire était de 15% de la production mondiale. Bon. Tout le monde sait que c'est au moins 40%, comme j'ai déjà dit. Alors, il y a quand même des contradictions terribles entre certains résultats affichés et la réalité. Et puis, encore une fois, comme ça vient d'être dit, c'est même à supposer que le recensement soit proche de parfait, ça ne dit rien de la traçabilité. Les planteurs peuvent s'échanger des fèves. Enfin, les coopératives trichent avec les approvisionnements des planteurs. Elles le font en partie parce qu'elles sont obligées. C'est long à expliquer. Mais enfin, les coopératives demandent souvent aux planteurs de signer des reçus pour des poids qu'ils n'ont jamais livrés ou signer des reçus pour des primes qu'ils n'ont jamais reçues. C'est presque un sport national dans le tissu des coopératives. On est dans un monde virtuel qui n'a rien à voir avec le réel.
Un cacao durable, mais à quel prix? La question que nous posons cette semaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI avec le spécialiste mondial de ce secteur, François Ruff, et les acteurs de la filière rencontrés au Forum européen du cacao.
La durabilité, c'est vous et nous. La durabilité, c'est le producteur, c'est l'acheteur, le commerçant. Que chacun fasse sa part.
Que chacun fasse sa part. Qui le dit ? C'est Omer Gatien Malédi, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Cameroun. Il appelle à une meilleure coopération avec les acheteurs européens.
Nous sommes un peu perturbés par les changements réguliers de la réglementation au niveau de l'Europe. Ça change tous les jours. Donc, nous voulons mettre en place des systèmes de communication, d'échange d'informations qui nous permettent d'être suffisamment informés dans les bons délais et de prendre des mesures pour nous adapter. Le client étant roi, l'Europe est notre premier client, donc on peut comprendre qu'il impose certaines régulations, mais à nous de nous adapter. Donc notre premier message, c'est faisons ensemble pour que nous nous adaptions à votre régulation.
Faisons ensemble, François Ruff, plus facile à dire qu'à faire.
Oui, par rapport à ce genre de discours très général, j'ai du mal à réagir parce qu'encore une fois, je les sens loin du réel. On a des grandes compagnies, certaines multinationales, dont c'est le boulot de transformer le cacao, soit des fèves en masse et en produits intermédiaires, soit de produits intermédiaires en chocolat. Et elles essayent de s'adapter à un discours général de responsabilité sociale des entreprises. Elles le font plus ou moins bien, mais elles le font tellement dans la communication aussi. Peut-être un dernier exemple, la communication sur l'agroforesterie. Et d'ailleurs, le ministre des Eaux et Forêts en parlait. Nous devons sensibiliser les planteurs à faire de l'agroforesterie, à faire des agroforêts. C'est pas tout à fait ça. C'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Les planteurs de cacao, ils savent faire de l'agroforesterie. Beaucoup. Ils en ont fait il y a très longtemps. Dans les années 50, les cacaoyères ivoiriennes et ghanéennes étaient sous forêt. Mais d'une part, les multinationales entretiennent la confusion dans les mots. Ils font la confusion entre forêt et agroforesterie. C'est très bien de faire de l'agroforesterie. C'est mieux que de faire des cacaoyères monoculturales. Mais ça ne remplace pas la forêt. Donc, il faut pas jouer sur les mots. C'est pas parce qu'on plante deux arbres fraqués, trois terminalia et deux acpis, excusez-moi pour les noms propres, qu'on crée une forêt. Non, on crée un système agroforestier. Mais où sont les animaux, où sont les symbioses d'un système d'une forêt tropicale qui est un système extraordinairement complexe? Non, la biodiversité est déjà partie. Donc il faut appeler un chat un chat, il ne faut pas dire qu'on reconstitue la forêt.
Je voudrais qu'on entende un représentant des industriels, en l'occurrence le groupe belge Puratos, qui se dit engagé dans une démarche de durabilité avec un programme Cacao Trace, Cacao Trace en français. Écoutons son responsable commercial Sylvestre Awonu.
La durabilité dont on parle depuis longtemps déjà est une durabilité qui n'inclut pas le revenu des planteurs. Le premier endroit où l'on doit travailler, c'est au niveau des revenus des planteurs. Et en tout cas, c'est le pari que nous faisons.
Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'industriel, à payer demain les fèves plus chères aux planteurs ?
En tant qu'industriel, nous faisons déjà pas mal d'efforts. Bien sûr, on pourrait aller plus loin. On voudrait aller plus loin, on veut aller plus loin. Et si le secteur prenait cette direction, on serait tout heureux.
Les industriels font quand même des efforts ?
Oui, alors, en termes de communication, ils vont tous vous dire qu'ils font des efforts. Et de fait, ils consacrent, c'est sans doute des faibles parties de leur profit, qui est très important, mais ils consacrent des millions de dollars à des tas de programmes. Malheureusement, nous sur le terrain, on constate qu'ils sont d'une efficacité très limitée. Alors dans le tissu industriel, une petite boîte entre guillemets comme Puratos, qui est un joueur moyen ou petit, il peut chercher à se créer des niches et à payer un peu plus cher. Mais ce sont pas une solution générale. Quand même, un économiste vous rappellera toujours que le prix c'est l'offre et la demande. Et si le prix est faible, c'est en partie la faute de la Côte d'Ivoire qui a détruit ses forêts pour inonder le marché avec 2 200 000 tonnes. Le Ghana, 1 million de tonnes jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc il y avait trop de cacao dans le monde. Peut-être on va...
Il faudra diversifier les cultures, faire moins de cacao, faire autre chose ?
Ben, il fallait, oui, c'est facile à dire, mais il fallait sans doute raisonner de façon plus équilibrée, chercher. Mais c'est tellement facile, évidemment. Chaque fois qu'un kilo de cacao sort du port, l'État engrange 20 ou 25% de sa valeur sans avoir fait aucun investissement. Donc on comprend très bien que pour un politique, c'est très tentant de laisser la filière se développer sans contrôle. Mais de toute façon, c'est extrêmement difficile de contrôler une filière de cacao avec des dizaines et des centaines de milliers de producteurs. D'une façon générale, c'est ça l'équation du cacao. Ça coûte tellement peu de choses pour créer un hectare de cacao. Déjà, pour un planteur, c'est pas énorme par rapport à d'autres matières premières agricoles, mais pour un État, c'est zéro. Donc, c'est quand même très tentant de laisser faire.
Un chiffre, sur les 50 dernières années, 30 ont été excédentaires en cacao. Ça veut dire trop de cacao et donc des prix qui baissent.
Trop de cacao et trop de déforestation.
on a bien compris. On cherche quand même des solutions dans le secteur. Je voudrais qu'on écoute Omer Gassien Malédi, le secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Cameroun.
Le premier problème du producteur, c'est l'organisation. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus, de nous organiser. Les producteurs qui évoluent en solo ne prospèrent pas. Même si on leur paye des prix très élevés, ils n'en feront pas grand-chose. Quand on s'organise, on améliore la production, on améliore les pratiques, on améliore la commercialisation, on améliore les prix.
François Ruff, ce sera la dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît. Les producteurs trop mal organisés pour se défendre collectivement?
Oui, alors sur un plan technique, je suis pas d'accord avec le représentant du CICC. Les planteurs migrants qui sont partis s'enfoncer dans la forêt pour créer des plantations de cacao sont de merveilleux entrepreneurs qui savent très bien se débrouiller tout seuls. Même s'ils ont certains ont des solidarités fortes pour, par exemple, se protéger des animaux sauvages au début dans le front pionnier ou ensuite pour plus récemment avec des difficultés d'accès à la main d'œuvre s'organiser en groupe de travail pour être plus efficace, ça ils savent très bien le faire, ils n'ont pas besoin de l'État et des conseils, des politiques pour le faire. Par contre, ils sont effectivement très mal organisés pour se défendre vis-à-vis des pressions de l'État, des multinationales, des acheteurs, des coopératives. Est-ce que les coopératives ne sont pas là en général pour défendre les planteurs? Ils sont là comme de simples traitants pour prélever le cacao. Dans l'ensemble, il peut y avoir des exceptions, hein. Mais donc globalement, les planteurs sont sous-organisés et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont mal payés.
Merci à vous, François Ruff, économiste au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Merci d'avoir participé à Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Merci aussi à Marie-Pierre Olfand, dont vous pouvez retrouver la chronique matières premières du lundi au vendredi sur RFI et sur RFI.fr. RFI.fr également pour les grands reportages que nous vous proposons chaque jour, comme celui de Stéphane Lagarde, notre correspondant en Chine, sur la route des vins du Ningxia, une magnifique région du nord-ouest du pays, région semi-désertique, qui veut, à l'heure des vendanges, produire du vin, et du vin capable un jour de rivaliser avec les crus étrangers. Des Français sont d'ailleurs dans la partie. Et pour l'instant, nous dit ce reportage, il faut convaincre les Chinois eux-mêmes.
Après la récolte, le tri des raisins bat son plein dans les vignobles du Ningxia. Les vendanges ont été plutôt bonnes cette année. Le millésime est prometteur, paraît-il.
Nous, on a fixé, on va être grand cru, donc on va être grand cru. Et on va mettre les moyens pour être grand cru. Et on me donne carte blanche pour être grand cru.
Le domaine Stone & Moon fait partie des derniers arrivés sur le terroir. Des ambitions à la mesure des 20 millions d'euros injectés par deux investisseurs venus des mines de Xi'an. 50 hectares de vignes plantées il y a moins de 5 ans. Et déjà, les premières bouteilles. À la baguette, le bordelais Nicolas Billot-Grima.
Là, vous êtes les premiers à goûter. On a mis les étiquettes. Hier, notre première récolte 2021. 90% de mon marché, ça va être la Chine. On les vend cher, hein. C'est pas des petits vins. On va être entre 20 et je dirais 500 euros.
Des bouteilles chères et des coûts de production élevés. Le matériel est importé. Une machine signée Vasselin Bucher pour la réception des grappes. Un système d'irrigation israélien pour amener l'eau du fleuve jaune et des fûts venus d'Europe, comme dans la plupart des domaines. Visite groupée de Shige Estate. Nous sommes perchés sur des passerelles à 4 mètres du sol. Vue plongeante sur les grandes cuves de fermentation de ce jeune vignoble XXL, 2000 hectares de vignes. Plus loin, l'élevage en barrique. Christelle Chen, ambassadrice de la marque à l'international.
Actuellement, on a 3000 barriques importées de France et on a aussi des foudres. Alors ça, c'est assez rare en Chine, on n'a pas beaucoup de foudres. Le foudre, c'est les grosses barriques qui font 5000 litres, qui sont également importées de France. Et on importe 1000 à 1500 barriques tous les ans. Donc on est un gros consommateur de barriques.
Des matériels importés et surtout des vignes à enterrer l'hiver avant que le sol ne gèle. Le domaine Roland Chinchue a reçu le prix du magazine Décanteur en 2011. Dans la cave, on pose les bouchons.
Il faut d'abord insérer la bouteille. On place le bouchon et on verrouille le bouchon de l'extérieur. Voilà, c'est fait. Je mets les bouchons pour 40 à 50 caisses de vin par jour. Mais vous voyez, il reste tellement à faire.
Ça, c'est le Jabeilan.
Beaucoup à faire et à l'étage, dégustation de le rosé Jabeilan 2021 part comme des petits pains, nous dit-on. Zhang Jing, directrice du vignoble.
C'est très demandé, on vend toutes nos bouteilles. Dans les hôtels chics de Shanghai et Pékin, ils utilisent ce rosé pour le thé de l'après-midi.
Je m'appelle Soulong, directeur général de Shandong China. Le positionnement de notre marque cible la jeune génération.
Chez Shandong, spécialiste du vin pétillant en Chine, on cherche aussi à conquérir la jeune clientèle.
Et voici notre rosé, un rosé sec avec 60% de chardonnay et 40% de pinot noir. C'est un vin que nous avons spécialement conçu pour les dames, pour le thé de l'après-midi. Et pour ce Shandong Shi, nous avons voulu associer le savoir-faire Shandong au palais et à la culture des Chinois. Le rouge domine sur la bouteille. C'est la couleur préférée des Chinois. Et c'est un demi-sec. C'est probablement trop doux pour les Européens. Mais les Chinois aiment bien. On n'est pas en conflit avec les vins importés. Les consommateurs chinois veulent du champagne, du Bordeaux. Ils veulent aussi les vins de la montagne Helan. C'est une grande famille, sans conflit.
Pas de conflit, assure le représentant de la marque du groupe LVMH. Il y a de la place pour tout le monde, alors que jusqu'à présent, le vin était surtout synonyme de Bordeaux pour les consommateurs chinois. Les viticulteurs du Ningxia veulent vendre un vin de terroir chinois aux Chinois. Derrière la multiplication des domaines, par deux en 10 ans et l'appétit des investisseurs, il y a encore du travail, nous dit Lionel Le Gall, spécialiste du vin en Chine.
Les gros challenges pour le Ningxia à venir, c'est surtout d'être capable d'écouler la production, comment on interagit avec les consommateurs et comment on anticipe les tendances de consommation en Chine dans le vin. Au niveau des statistiques, le marché du vin chinois, les consommateurs de vin, c'est 50 millions. Donc est-ce que la Chine, c'est l'Eldorado du vin? Pas du tout. Hein, je pense que ça, c'est pas vrai. Les gens qui consomment un verre de vin par jour, c'est pas vrai.
Alors l'entrée de gamme, ça c'est pour les jeunes consommateurs, juste que ce soit très sur fruits, il n'y a pas du tout de bois, c'est vraiment facile à boire.
Le design, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y en a sur les étiquettes? Ça, on voit rarement ça en France. Hein.
Ça c'est le mouton bleu du Ningxia, qui est en voie de disparition. Ça c'est le Tonkin, c'est un gnou, je veux dire des montagnes là. Et j'ai voulu prendre la force de ce gnou, entre guillemets, et le remettre dans le terroir d'ici.
Des animaux en couleur sur les bouteilles, un gnou, un mouton, rien n'est trop beau pour tenter de séduire une classe moyenne au goût prononcé pour les vins importés. Un défi que Zhang Jing est disposé à relever.
On a envie de relever ce défi car désormais les Chinois ont davantage confiance dans le made in China. Après les téléviseurs, les frigos, les chaussures, nous produisons des vins de qualité. Donc c'est un contexte très propice au développement des vins chinois.
La confiance culturelle retrouvée, prônée par le président chinois, le développement des vins du Ningxia est un enjeu économique local. C'est aussi une question de soft power pour le gouvernement central. Les mentalités sont en train de changer, affirme Christelle Chen.
On peut dire que depuis deux ans, le Covid nous a donné un coup de main parce que beaucoup de consommateurs de vins chinois ne pouvaient pas sortir de Chine depuis deux ans. Et du coup, ils se sont dit où est-ce qu'on peut visiter en Chine ? Au Ningxia. Et tout le monde est venu ces deux dernières années. Avant, ils n'avaient pas la confiance dans les produits chinois et notamment le vin. Pour eux, le vin, ça devait être importé. Donc, ils sont beaucoup plus enclins à acheter plus de vin chinois pour être aussi supporters de ce que fait leur pays.
Il y a du nationalisme dans le vin, on peut le dire.
Un petit peu aussi.
Et la région autonome du Ningxia, qui était encore un désert dans les années 80, compte aujourd'hui, selon les chiffres officiels, 211 domaines viticoles. Stéphane Lagarde, Louise May, dans le Ningxia RFI.
Reportage dans les vignes du Ningxia. Photo à découvrir sur Facebook, sur notre page RFI Echo. Nous reparlerons très bientôt de la Chine qui prépare le 20e congrès du Parti communiste dans un climat économique, disons, étrange. Voici notre dernier dossier.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Le mot de la semaine et même le mot de ce mois de septembre sur la planète économie, super profit. Ces milliards de dollars engrangés par ces géants de l'énergie, Shell, Eni, Total et bien d'autres, ces bénéfices records provoqués par l'envolée des prix et qui indignent le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz.
Most of the companies that are making these massive profits didn't do anything to deserve it.
Ils n'ont rien fait pour mériter ces profits, nous dit Joseph Stiglitz, engagé dans un combat avec d'autres économistes et une partie des opinions publiques pour une taxation spéciale de ces géants de l'énergie. Bonjour Céline Azemar.
Bonjour Bruno. Merci beaucoup pour cette invitation.
Vous êtes professeur d'économie à la Rennes School of Business, l'école d'économie de Rennes dans l'ouest de la France. Vous êtes en ligne, vous allez nous aider à décrypter les enjeux autour de ce débat passionné, ces profits records, ces super profits. Ils ne sont pas liés a priori à des investissements ou à des innovations, mais plutôt à la guerre en Ukraine, un événement extérieur qui a bouleversé le marché. Si on réfléchit comme ça, pas de doute, il faut absolument taxer les géants de l'énergie, sauf qu'il y a deux limites, deux arguments qui s'y opposent, l'équité fiscale et l'efficience, l'efficacité de la taxe. Commençons par l'équité fiscale, Céline Azemar. On taxe un secteur en particulier. Est-ce que c'est faisable et est-ce que ça peut être attaqué en justice?
Oui, alors c'est vrai que l'introduction d'une taxe pour quelques firmes, ça peut poser un problème d'inégalité de traitement des contribuables, puisqu'en fait, elle peut amener à traiter différemment des entreprises qui ont des caractéristiques similaires. Et cette fiscalité qui est en fait sélective, puisqu'elle s'adresse à certaines firmes et pas à d'autres, elle pourrait altérer la concurrence. Et dans ce cas, elle pourrait être considérée comme une aide d'État pour les firmes qui font des super profits mais qui ne sont pas taxées, en fait, puisque d'autres ne le seront pas taxées, alors qu'elles ont des caractéristiques similaires. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il interdit les aides d'État à des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vertu de cette loi, en fait, un avantage qui est sélectif, il ne peut pas être accordé à des entreprises spécifiques. Parce que ça pourrait entraîner en fait des sanctions de la Commission européenne.
Ça pose un problème de concurrence aussi entre des entreprises et entre des secteurs?
Ça pourrait, puisque pour l'instant, quand elle est mise en place, et avec les discussions qui sont en cours, on voit que certaines firmes sont considérées et pas d'autres.
Si on voulait taxer ces grandes entreprises, comment fixer le seuil au niveau de leurs bénéfices, au niveau de leur chiffre d'affaires? Ça peut être compliqué, ça aussi.
C'est compliqué, c'est vrai. Et déjà, il faudrait pouvoir définir les profits exceptionnels pour pouvoir fixer ce seuil. Donc, on entend souvent autour de nous dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un profit exceptionnel. Mais pourtant, on peut quand même s'accorder sur le fait qu'ils correspondent à des gains imprévus et généralement générés par des événements exceptionnels qui sont inattendus, tels que la guerre, ça peut être aussi des catastrophes naturelles ou des pandémies comme la Covid-19. Donc en ce sens, l'investissement qui a eu lieu sans l'anticipation de ces bénéfices exceptionnels. Donc à partir du moment où on arrive à le définir, cet excès de profit, il faut pouvoir l'identifier et donc essayer de fixer un seuil. Alors, comment l'identifier? On peut utiliser deux méthodes. La première, ça consiste à comparer les profits qui sont générés plusieurs années avant cet événement exceptionnel, parlons de la guerre en Ukraine par exemple. Et donc, on compare les profits générés avant la guerre, on les considère comme des profits normaux et on les compare à quoi? Aux profits générés pendant la guerre. Si on a une différence entre les deux, si les profits générés pendant la guerre sont supérieurs aux profits avant la guerre, dans ce cas, on parle de super profits. Et la deuxième méthode, elle consiste en fait à considérer que tout profit supérieur à un certain rendement du capital est excédentaire. Donc pour faire un peu plus simple, avec une taxe sur les super profits, l'idée c'est de taxer normalement les profits qui sont dits normaux, donc on les taxe auto-statutaires, au taux d'impôt normal du pays en question, et de taxer plus fortement les profits excédentaires.
On a parlé de la question de l'équité fiscale, il y a aussi la question de l'efficacité, et c'est l'argument des patrons de ces géants de l'énergie. Avec une taxe, on pénaliserait des entreprises qui paient déjà beaucoup d'impôts. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, cette semaine devant une commission parlementaire en France.
Je voudrais juste rappeler trois chiffres. En 2020, avec le Covid, les prix s'étaient effondrés. Nous payons mondialement, c'est l'année la plus basse, 6 milliards de divers impôts sur les bénéfices et taxes à la production. C'est mondial. En 2021, nous en avons payé 16 milliards. En 2022, nous paierons 30 milliards d'impôts et de taxes à la production mondialement. Pourquoi ? Parce que dans la grande majorité des pays producteurs où nous sommes implantés, la fiscalité s'adapte avec les prix du pétrole.
Le patron de Total nous dit qu'il paye déjà beaucoup d'impôts, qu'il y a donc une forme d'injustice à vouloir lui en faire payer encore plus. Céline Azemar, est-ce qu'avec de l'incertitude fiscale, on découragerait l'investissement et on handicaperait la croissance ?
C'est vrai qu'on peut se poser la question avec une taxe sur les super-profits de son efficience, c'est-à-dire est-ce qu'en la mettant en place, est-ce qu'on va vraiment augmenter les recettes de l'État sans avoir des conséquences négatives pour l'économie. Je pense que quand on parle de taxes sur les super-profits, encore une fois, il faut bien se souvenir que les profits normaux, ils sont taxés normalement, il n'y a pas d'augmentation à ce niveau-là. On parle seulement d'une augmentation pour les profits excédentaires. Le risque qu'on peut apercevoir là, avec la mise en place de cette taxe, c'est que d'une part, elle est temporelle. Donc, dans les pays qui la mettent en place parlent de son côté temporel, exceptionnel. Et la deuxième chose, c'est qu'elle ne s'adresse pas à toutes les firmes. Donc, on voit qu'il y a une sélection qui est un petit peu parfois difficile à justifier. Et ça, c'est vrai que ça peut entraîner une augmentation de l'incertitude fiscale pour les entreprises. Et incertitude fiscale, ça peut vouloir dire découragement de l'investissement, par exemple.
Céline Azemar, est-ce qu'il y a des pistes hybrides possibles, des compromis possibles ?
Oui, je pense. Pour les compromis, pour éviter un effet négatif sur l'investissement, une taxe sur les super-profits pourrait s'accompagner d'un allègement fiscal pour tout profit réinvesti. Et c'est ce qui est fait au Royaume-Uni, hein, c'est ce qui est déjà mis en place. Un autre compromis, c'est que les profits devraient être corrigés pour l'inflation, surtout en cette période de forte inflation, pour s'assurer qu'ils reflètent bien les performances des entreprises. Et puis, vous parliez d'une autre piste possible, peut-être augmenter l'impôt sur les dividendes. Il y a une étude qui vient, une très très bonne étude qui vient juste d'être publiée par un chercheur français et américain de HEC et de Princeton. C'est qu'en fait, il se focalise sur la très forte hausse de l'impôt sur les dividendes qui a eu lieu en France en 2013. C'était la plus forte hausse de mise en place dans les pays développés. Et ce qu'il trouve est vraiment très intéressant parce que les firmes qui ont vu leur impôt sur les dividendes augmenter, elles ont réduit le paiement des dividendes à leurs actionnaires et elles ont en fait eu plus de liquidités et elles ont utilisé cette liquidité pour investir. Donc on a eu des firmes qui ont plus investi, ça a augmenté de 20% leur investissement en France. Ça a diminué leur probabilité de faire faillite, ça a augmenté la croissance de leurs ventes. Et en plus, les chercheurs n'ont pas détecté de changement dans le comportement d'évasion fiscale.
Dernière question, Céline Azemar. Est-ce que ce débat ne pose pas le problème plus profond de l'acceptation de l'impôt pour les grandes entreprises ? Je suis riche, donc je participe davantage à la cohésion sociale.
Il semble nécessaire, en tout cas, que les plus riches participent davantage à la cohésion sociale. Surtout lorsqu'on observe de tels écarts d'inégalités. Là, on a quand même des inégalités qui se creusent parce que d'une part, on a l'enrichissement de certains qui s'accompagne d'un appauvrissement d'un grand nombre. On parle quand même de ménages qui auront peut-être froid cet hiver, qui mangeront moins bien et qui ne pourront peut-être pas se réchauffer dans les universités, les écoles, les bibliothèques. Donc, la pandémie, puis la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le pouvoir d'achat font quelques gagnants et nombreux perdants. Et avec le réchauffement climatique, on peut malheureusement s'attendre à des situations similaires qui sont plus fréquentes parce que le réchauffement climatique il va forcément malheureusement augmenter les risques de conflits, de maladies infectieuses, de sécheresses, de catastrophes naturelles. Donc en fait, il devient quand même urgent de réfléchir à la réforme de notre système fiscal pour soutenir une croissance inclusive. C'est-à-dire, c'est quoi une croissance inclusive ? C'est une croissance économique qui est plus équitablement répartie dans la société et qui crée des opportunités pour tous.
Merci à vous, Céline Azemar, professeure d'économie à la Rennes School of Business. À qui profite la guerre ? À qui profitent les crises ? Voilà de quoi nourrir toute une semaine de réflexion. Je vous invite à les partager sur nos comptes Facebook et Twitter, RFI Éco. Je remercie Jérémy Bouchet pour la réalisation de cet Éco d'ici, Éco d'ailleurs. À la semaine prochaine, restez à l'écoute, restez connectés, portez-vous bien.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.